Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Cube Radio.
Salut, c'est Vanessa Destinée
et Dalila Awada.
Racisme, diversité, intersectionnalité, des gros mots qui font trembler.
Mais nous autres, il n'y a pas grand-chose qui nous intimide. On va crever l'abcès. Pigment Fort, c'est des discussions animées par des personnes racisées.
Pour les personnes racisées? Nah, pour tout le monde! Yeah! Salut tout le monde! Hey, on espère que vous allez bien puis que vous nous aimez encore, même après l'épisode de la semaine dernière qui s'intitulait « Comment parler de racisme à un blanc sans se fatiguer? » C'est sans rancune, OK? Je sais que, bon, il y a des internautes qui nous ont demandé de définir le concept de racialisation. C'est promis, on vous prépare une petite vidéo sur le sujet parce que c'est le genre de truc qu'on peut pas expliquer en une phrase. Mais si on passe 35 minutes de podcast là-dessus, ben ça risque d'être long, longtemps. Donc voilà pour cette petite mise au point. Et je me suis pas présentée, mais j'ose espérer qu'à la 10e semaine, vous reconnaissez ma voix. Je suis Vanessa Destinée et je suis en compagnie de ma co-animatrice Dalila Awada, hashtag Queen! Sub sister!
Salut!
Ça va bien aujourd'hui?
Oui, j'ai pas ta coolitude, mais j'essaie fort!
Ma coolitude, tu veux dire mon swag?
Oui.
Ici, on parle franglais, Dalila. On n'invente pas des fausses expressions comme l'Office québécois de la langue française.
OK.
On l'assume, là, le franglais. Là. Sans plus tarder, on va passer au sujet du jour. On va pas s'éterniser aujourd'hui sur les salutations, hein, parce qu'on brasse des affaires sérieuses à Pigment Fort,
bien sûr. Autres, hein.
Vous aurez compris là, qu'on fait le podcast à Cube Radio, donc chez Cube Radio, qui est la nouvelle radio numérique de Québécois. Et la station a été approchée pour faire une espèce de semaine de sensibilisation aux enjeux LGBTQ au sein de la programmation. Donc, on a été approchés par le gouvernement du Québec. Et Cube, ben, chez Cube, il y a des émissions en direct, puis il y a des podcasts sur plein de sujets. Puis nous, étant donné qu'on parle de diversité, ça allait juste de soi qu'on participe à cet effort-là, surtout quand on sait qu'il y a des enjeux supplémentaires qui concernent les minorités ethniques qui font aussi partie des groupes de minorités sexuelles.
Oui, puis dans le fond, plus une identité va être considérée complexe, plus elle va sembler déroger à une certaine norme établie, plus les défis vont être nombreux, tu sais, la représentation, les discriminations.
L'intégration.
Exactement. Donc, on parle souvent d'intersectionnalité. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu dans les dernières années, un mot qui a été beaucoup décrié.
Et qu'on utilise régulièrement aussi à l'émission, tu sais.
Oui, puis pour le dire rapidement, qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité? Bien, c'est quand il y a plusieurs dynamiques oppressives, donc plusieurs types de discrimination qui s'enchevêtrent, qui s'articulent ensemble et qui font en sorte qu'une personne vit plusieurs difficultés en même temps dans sa vie dues à ces différents systèmes d'oppression.
Ouais, puis à sa multiple, son identité qui est complexe aussi. Et ben c'est ça, vous êtes peut-être pas familier nécessairement avec ces enjeux-là en ce qui a trait à la diversité au sein des minorités sexuelles, mais moi je peux vous dire là, qu'au sein de la communauté noire, par exemple, c'est pas facile de faire un coming out, OK? Il y a encore énormément d'homophobie, puis il faut dire que ça reste une communauté encore très, très religieuse. Hein. Les Noirs, ils fréquentent encore en masse les églises. Puis là, avant que vous capotiez, le rapport à l'église chez les Noirs, il est très communautaire. Hein. L'église, c'est pas l'espèce d'autorité austère qui carbure à la culpabilisation. C'est plus comme un milieu de vie, tu sais, on y célèbre la vie. Et ça surprend toujours mes amis québécois de souche parce que, bon, on connaît l'histoire confessionnelle du Québec, donc c'est pas du tout le même rapport là, à la religion. Mais tu sais, les Noirs sont quand même beaucoup dans le message d'amour envers le prochain. Il y a des choses qui ne passent toujours pas, qui sont prises au sens littéral, comme l'homosexualité. Par exemple, moi, mon père, là, il est du genre à dire « Dieu a créé Adam et Ève, pas Adam et Steve ». Tu sais, vous voyez, donc, you know, c'est ce genre de discours-là qu'on retrouve. Donc, il y a une hostilité là, à l'égard de tout ce qui est différent de ce qu'on identifie dans la Bible, du modèle binaire hétéronormatif de la femme et de l'homme qui procréent ensemble. Donc, toi, chez les musulmans d'Alila, comment vous vivez ça? Parce que là, je me doute
chez nous, chez les musulmans?
Chez les musulmans. Oui, je le dis comme ça, parce que je me doute que certaines personnes qui écoutent le podcast prennent pour acquis que parce que tu portes un voile, t'es homophobe, transphobe. Et on le sait, en Arabie Saoudite, puis en Iran, l'homosexualité, c'est les coups de fouet, hein? Donc, peux-tu, s'il te plaît, rassurer nos auditeurs et nous rappeler aussi que tu n'es t'es pas saoudienne ni iranienne, tu sais? Et même si tu l'étais,
c'est un raccourci de penser que je serais nécessairement homophobe. Mm-hmm. Ben, d'abord, je peux pas parler pour l'ensemble des musulmans. Moi, ma compréhension de la chose, ma perception, c'est trois choses. D'abord, j'achète pas le discours des personnes qui s'en foutent complètement des droits des minorités sexuelles. Mais quand il s'agit de faire la leçon aux musulmans, ah là, par contre, c'est des grands défenseurs de la cause LGBTQ. Puis je ne crois pas à ça.
Ouais, on y reviendra. C'est quelque chose qu'on appelle l'homonationalisme.
Ouais, les doubles standards, toute cette forme d'hypocrisie, pour moi, c'est contre-productif. D'autre part, il y a effectivement beaucoup de raccourcis, comme tu l'as nommé. On prend pour acquis qu'une personne qui est musulmane est nécessairement homophobe. Car après tout, tu sais, je peux comprendre d'où ça vient, parce que dans les grandes traditions monothéistes, tu sais, les discours officiels sont pas très tendres à l'égard des minorités sexuelles. C'est un fait. Il y a comme vraiment des discours qui sont même très violents, qui parlent de châtiment, qui parlent d'enfer. Et donc, c'est pas très jojo. Puis je comprends d'où cette perception-là.
Dans le Coran, dans la Bible, dans le livre.
Oui, dans les grandes traditions. Et donc, il faut faire une distinction entre l'institution religieuse puis les individus qui pratiquent. Parce que les personnes qui pratiquent une religion, c'est pas juste un réceptacle qui reçoit des apprentissages et qui remet rien en question et qui fait pas son propre cheminement. Moi, par exemple, comme personne musulmane, mais je suis pas juste, tu sais, je suis pas une personne dépourvue de pensée critique pour autant.
Donc t'es pas homophobe.
Et non.
Donc,
on fait la distinction entre l'institution puis l'individu. Après ça, ça veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur les discours officiels des institutions religieuses. Mais l'autre chose qui est intéressante aujourd'hui, c'est qu'il y a des changements qui s'opèrent. Je pense qu'il y a quelque chose de générationnel qui est en train de se passer. Mmh. Puis nous, on est une génération qui a vécu dans une diversité confronté à des réalités multiples. On trouve pas ça bizarre. Pour nous, c'est normal d'avoir autour de nous des gens qui ont des vies différentes, qui sont aussi différentes de nous. Mm. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui s'opère avec une génération plus jeune.
Absolument raison. Puis c'est vrai dans la communauté noire, parce qu'effectivement, tu sais, je parlais au nom de la communauté, mais tu sais, évidemment, il y a plein d'exceptions aussi là au portrait général que j'ai brossé. Mais c'est vrai que ce que je décrivais là, c'était surtout la vieille garde, là, tu sais, les gens plus âgés comme mon père, justement, qui vont jamais changer d'idée, là, malheureusement, sur l'homosexualité. Là. Son idée est faite, puis il va mourir comme ça. Là, ouais. Mais les jeunes, justement, ils ont des amis de tout plein de backgrounds différents. Puis malgré le conditionnement qu'on reçoit, l'éducation qu'on reçoit à la maison, ben, le fait de côtoyer des personnes différentes, ben, ça t'ouvre à la diversité, incluant évidemment la diversité sexuelle.
Il y a une homophobie qui persiste, mais j'ai l'impression qu'on avance dans une direction qui est plus positive.
Qui est absolument positive. Ouais. Oui, mes frères font encore des jokes de fif, mais mettons, s'ils ont un ami gay, t'sais, ils vont pas... Pour eux, ça sera pas genre... Il y a une acceptation, tu sais.
Ça me fait penser à quelque chose que l'auteure française Christine Delphi disait, que pour la personne qui vit l'oppression, ben les choses vont jamais assez vite.
C'est vrai.
Donc, je comprends aussi que là, tu sais, moi, je peux relativiser puis dire oui, les choses avancent, mais je comprends aussi que pour les personnes qui vivent l'homophobie ou autre forme de violence, ça peut être très lourd à porter, puis ça peut être long, le changement.
Absolument.
On aimerait que ça arrive genre là.
Absolument. Et là, je veux juste préciser au passage que on condamne tout ce qui se passe en Arabie Saoudite, on condamne tout ce qui se passe en Iran en tant que bonne féministe, parce qu'il y a toujours des gens pour dire « Où sont les féministes pour dénoncer les violences? » On est là, on répond présent, donc on dénonce, on n'est pas pour ça.
On condamne l'homophobie partout,
absolument.
Même quand elle a lieu en des terres occidentales.
Absolument.
Parce qu'il y a encore aussi de l'homophobie.
Voilà, exactement. Que ce soit en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, on condamne l'homophobie, et c'est justement...
Dossier réglé?
Ben, pas tout à fait, en fait. On a fait le tour de nos expériences, vous aurez compris. On va revenir vraiment au sujet du jour principal en tant que tel. Pour avoir un portrait plus large de la question de la diversité ethnique et sexuelle ici au Québec, ben, on reçoit quelqu'un qui se penche régulièrement sur ce sujet-là dans le cadre de son travail. Il s'agit de Félicia Tremblay. On l'entend, là. Félicia Tremblay, directrice de la diversité et des relations communautaires chez Fierté Montréal, un organisme qui a été fondé en 2007, que vous connaissez certainement très bien, parce qu'il organise à chaque année les festivités de la fierté. Hein? Évidemment, il y a le défilé que tout le monde connaît au Québec, mais le Festival de la fierté qui se déroule à Montréal, c'est 11 jours d'activités communautaires et culturelles comprennent notamment aussi des spectacles gratuits, des panels, une vraie de vraie journée communautaire, donc au service de la communauté. On enregistre annuellement des dizaines de milliers de visiteurs pour l'événement. Et concrètement aussi, ce que fait Fierté Montréal durant l'été et tout au long de l'année, parce que dans le fond, c'est pas juste pendant ces 11 journées-là, ben c'est démystifier et mieux faire connaître les réalités des communautés LGBTQ montréalaises et québécoises au grand public, travailler à l'avancement des droits des personnes LGBTQ d'ici et d'ailleurs, et mettre en valeur, promouvoir, prendre part au travail des groupes LGBTQ, donc des ressources sur le terrain qui luttent contre les discriminations reliées à l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la sérophobie aussi, donc le fait d'avoir peur des sidéens, tu sais, de discriminer les personnes sidéennes. Donc, en plus d'offrir aussi là, bon, à l'ensemble de la communauté LGBTQ+, une vitrine, un lieu d'expression culturelle. Donc,
on va s'en parler plus en détail avec notre invité. Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'invité.
Salut Félicia, hey, merci d'être avec nous.
Salut, merci de m'accueillir, ça me fait vraiment plaisir.
Ben oui, on est super contente de te recevoir, ben d'abord à cause de ton expertise, mais aussi parce que t'incarnes tellement tout l'esprit de Pigment Fort, t'es un bel exemple de métissage, et là je dis ça sans te chercher à te fétichiser, mais ta mère est blanche, québécoise de souche, ton père est afro-amérindien, donc là je reprends le terme que toi tu m'as donné, donc noir et autochtone, et tu as grandi en région en plus, tu t'identifie à la bispiritualité. Mm-hmm. Pourrais-tu nous expliquer, on va commencer avec ça, ce que c'est, donc pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu ce terme-là, ce que c'est la bispiritualité?
La bispiritualité. Écoute, le terme anglo, c'est two spirit. Moi, je préfère dire two spirit en anglais parce que j'aime bien la représentation des deux esprits, masculin et féminin, si on peut dire, dans une même entité. Donc, c'est ça, la bispiritualité, c'est quelque chose de spirituel. Tu sais, c'est pas seulement je m'identifie à mes le même sexe ou X ou Y, c'est vraiment une personne peut être bispirituelle et avoir la liberté de se retrouver dans le spectrum sans devoir
choisir.
Sans devoir choisir, tu sais.
Si elle est une femme ou un homme, puis ça, tu sais, la bispiritualité, de ce que j'en comprends, c'est que c'est le troisième genre autochtone. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Je sais pas, corrige-moi si je me trompe, mais c'est le genre neutre autochtone, donc ni homme ni femme.
T'sais, tout dépend de la personne, comment qu'elle choisit de s'identifier. Tu sais, en fait, c'est, écoute, je suis pas l'experte des expertes, là, mais je peux dire que dans la culture autochtone, dans plusieurs nations, je veux dire, on reconnaît cinq genres. Il y a homme-homme, homme-femme, femme-homme, et ainsi de suite.
Ah ouais.
Je crois que se dire two spirit, c'est comme dire qu'on peut se retrouver quelque part là-dedans, puis on n'a pas besoin d'être dans une case particulière, mais il y a aussi la spiritualité de...
OK. Donc, ça offre une plus grande liberté que les modèles étouffants qu'on connaît habituellement.
Oh my... je sais pas où commencer parce qu'il y en aurait gros, tellement long à dire là-dessus.
Mais on est
mais
là
je peux dire que.
Mais, ouais. Mais justement, dis-nous peut-être pour commencer, ça c'est une réalité qui existe depuis longtemps. On a l'impression que c'est tout nouveau, mais ça a juste été occulté pendant longtemps en fait.
Exactement. Dans le fond, c'est avec la colonisation, tout ça. Le terme bispiritualité, bon, premièrement, le terme il a été créé comme en 94, là. Donc, ça a été une manière de se réapproprier une partie de cette identité culturelle-là qui nous a été enlevée.
Okay.
Donc, la bispiritualité existe depuis très longtemps et chaque nation a différents termes aussi pour identifier une personne bispirituelle. Contrairement à ce qui est arrivé après la religion catholique, le colonialisme et tout ça, une personne bispirituelle était reconnue, était considérée importante dans la communauté parce que, par exemple, une personne, mettons, née dans un corps d'homme avec aussi des qualités féminines, tout ça qui s'identifiait comme telle, pouvait autant garder des femmes que d'être un guerrier et vice-versa, tu sais. Donc, ces personnes-là, souvent, on leur demandait de rester dans les campements pour garder les feux sacrés, d'avoir des hautes fonctions. Et puis ça a complètement été détruit avec l'arrivée des colonisateurs. Donc,
appliquer les préceptes de la Bible en rappelant qu'il y avait juste deux genres possibles, soit hommes et femmes, un peu ce que je disais là avec les livres religieux, ce qui a fait en sorte que ça a complètement évacué l'existence de ces identités multiples, de ces cinq genres-là que tu décris, cinq genres au sein des différentes communautés autochtones.
Ouais. Okay. Ouais. Okay. Puis, mais c'est pas que la bispiritualité, c'est d'avoir les cinq genres. Okay. C'est, quand on parle de LGBTQIA2S+, en fait, c'est tous des termes dans une langue en français, en anglais, une langue colonisatrice. Mm-hmm. Two Spirit, c'est un terme parapluie qui a été créé pour, comme je vous disais, pour réapproprier, mais ça se retrouve pas nécessairement dans l'amalgame LGBTQ. Okay. Je sais pas si je fais du sens, je m'excuse.
Ah oui, 100%, ça clarifie les choses.
Parce que c'est spirituel, donc ouais, ouais. C'est vraiment propre à soi, comment on s'identifie en tant que personne to spirit.
Ouais.
Je veux dire, moi personnellement, je sens que j'ai une énergie féminine et une énergie masculine, puis je sens pas l'obligation d'en choisir une ou l'autre. Parfois, je vais plus être d'un côté ou l'autre. Des fois, ça va être les deux tout ensemble. Ça fait partie de moi, ça fait un tout. Et c'est pour ça que quand j'ai entendu le terme to spirit, j'ai compris que c'était mm-hmm. ça. D'autant plus que j'ai des origines autochtones, mais j'ai pas grandi dans la communauté, donc pour moi ça a été une manière de me rattacher à ces racines là.
Mm-hmm. Puis dis-moi justement, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain là. Tu te réveilles pas un matin en redécouvrant tout ce bagage là longtemps ignoré rattaché à la bispiritualité. Donc toi t'as eu un cheminement à travers ça, tu sais, t'as pas au niveau genre tu t'es posé des questions sur ton identité sexuelle ou ton orientation sexuelle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment ça s'est passé?
Mm-hmm. Je pense que très jeune, déjà du fait que j'étais un bébé chocolat, comme on m'appelait, oui. Tu sais, dans une famille blanche très aimante, là, j'ai toujours eu énormément de questionnements, puis à chaque fois que je m'appropriais une nouvelle idée qui ouvrait une certaine porte vers un nouveau monde, ben j'avançais. Mm-hmm. Donc, ma mère me présentait des amis gays à elle quand j'étais plus jeune, puis elle me demandait comment je me sentais par rapport à ça, puis j'ai fait « Ah, ben je me sens bien, y a pas de problème. » Puis, bon, avec le développement de ma propre identité, ben petit à petit, je me rends compte que je me sens bien avec les femmes que je vois aussi qui sont peut-être plus tomboy ou tu sais, je parle en vieux termes parce que j'ai grandi dans les Laurentides, puis tout ce vocabulaire-là riche qu'on utilise à Montréal, il est encore très peu accessible là-bas. Mm-hmm. Donc, à chaque fois, j'entendais quelque chose de nouveau, je me demandais, je file-tu comme ça ou je file pas comme ça? Comme, c'est quoi, tu sais? Quand j'ai commencé à expérimenter avec les femmes puis à sentir que c'est quelque chose qui m'appelait beaucoup, c'est que ça faisait partie de mon identité, ben là, on a commencé à me poser la question, mais t'es quoi? T'es bi, dans le fond, tu sais? Puis je voulais pas renier le fait que j'ai aimé des hommes. Je voulais pas non plus renier le fait que j'aimais des femmes. Là, c'était un peu compliqué. J'aurais aimé ça avoir un terme qui me donnait une réponse à toutes mes questions. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que j'ai exploré le terme bisexuel. C'était le seul que je connaissais au moment. Puis, à quelque part, c'était le mieux qui identifiait ma situation. Puis, quand j'ai fait mon coming out à ma famille blanche, tu sais, ma mère était comme, ben là, tu peux pas être les deux, faut que tu choisisses. Oh. Essaye d'être lesbienne pendant un bout de temps, voir qu'est-ce que ça fait. Puis j'étais comme, ouais, je pense pas c'est de même ça marche. Mais j'ai essayé voir de m'identifier seulement comme lesbienne pour voir comment je suis là-dedans. Puis je m'y reconnaissais pas, ça me faisait pas vibrer, tu sais, comme terme. Puis j'ai toujours eu un grand problème avec des étiquettes parce que dès ma jeunesse, on m'a tout de suite étiqueté point de vue de mon apparence, ouais. Tu sais, puis constamment on cherchait à m'étiqueter, puis moi je voulais juste sortir de tout ça là. Mm-hmm. Donc quand je prenais le temps vraiment seule avec moi-même, mettre les étiquettes de côté, comment je me sentais, ben s'il y a des moments que je me sentais très masculine, puis d'autres moments où je me sentais très féminine. Puis ça, les deux faisaient partie de moi, puis c'était correct. Mm-hmm. Mais je connaissais pas du tout le terme to spirit, tu sais. Donc.
Puis c'est en lisant là-dessus, c'est ça que tu disais?
Ben en fait, c'est que de fil en aiguille, je me suis retrouvée à travailler comme intervenante au Élève Women's Shelter.
Ah,
et puis, ça m'a vraiment.
Avec Macousset?
Oui.
Macousset,
oui. Ça m'a aidé à faire une belle immersion aussi pour me retrouver dans tout ça par rapport à mes racines. Puis quand j'ai entendu le terme to spirit pour la première fois, j'ai dit, c'est quoi ça?
Mm.
J'ai dit, ben c'est moi. Je l'ai toujours dit, en fait. Quand j'ai finalement renié les étiquettes, j'ai dit, ben regardez, là, on n'a pas toujours envie d'expliquer non plus on est qui. Mm-hmm. C'est long, là. Puis il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop.
Donc toi, tu t'es reconnue dans ce concept-là, dans cette idée?
Du moment que j'ai entendu Two Spirit, je me suis tout de suite reconnue parce que quand j'ai décidé de laisser tomber les étiquettes quand j'étais plus jeune, j'ai fait, tu sais quoi, fuck off, là. Je vais arrêter de m'expliquer à tout le monde, puis les gens me prendront comme je suis simplement. Je suis qui je suis et j'aime qui j'aime. Mais quand je prenais le temps d'expliquer aux gens plus près de moi comment je me sens, parce que je voulais prendre le temps, tu sais, qu'ils me connaissent, puis qu'ils, aussi de leur ouvrir l'esprit là, par rapport aux choses qu'ils comprenaient pas, ben j'ai toujours expliqué, je me sens comme deux en un. Mm-hmm. Fait que j'ai entendu Two Spirit, puis tout de suite, j'ai fait « OK, c'est ça ». Puis ça, en même temps, c'est bizarre, parce que comme je vous dis, du côté spirituel, je me suis tout de suite sentie connectée en ligne directe avec mes racines, parce que j'ai pas grandi dans ma culture autochtone ni avec ma nation. Mais il y a des choses en dedans de moi, des sentiments qui ont toujours été tellement présents, puis à travers mes recherches, mes découvertes, ben je me suis rendu compte que ça a toujours été là, puis suffisait d'éveiller.
Mm-hmm. T'es de quelle nation? Parce que honnêtement, souvent, ça pas rapport du tout à la discussion avec la discussion sur l'identité sexuelle, mais c'est que souvent on a le réflexe de dire ah, elle est autochtone, et je trouve que trop peu de Québécois connaissent les nations en tant que telles. T'sais, c'est pas juste autochtone. T'sais, il y a des spécificités, donc juste connaître ta nation, je trouve que ça serait juste intéressant dans la discussion.
Juste en fait. Avant, je vais te corriger sur une chose.
Oui,
okay,
parce que j'ai dit.
Ben, tu dis beaucoup de diversité sexuelle, ouais. C'est correct, mais ouais. On dit diversité sexuelle et de genre. Mmh. Parce que les deux ne sont pas pareils.
Oui, effectivement.
C'est pas du tout absolument. Pareil. Donc, je voulais juste faire mon petit
clin de sel. Pas de problème,
mais sans rancune, là.
Ben oui, no stress. Et dis-moi, donc, on va reprendre.
Oui. C'est ça. Donc, moi, je suis de la nation Cherokee. C'est le fun de dire autochtone et Première Nation. Mm-hmm. C'est juste que les ailes autochtones, souvent, ils ont tendance à homogénéiser. Puis ça, on veut pas. Fait que oui, merci de me poser la question. C'est important de le dire. Donc, moi, c'est la nation Cherokee. Et puis, tu sais, quand on disait mon père, c'est un afro-amérindien.
Ouais.
Ben, c'est un peu complexe parce qu'en fait, là, de ma nation Cherokee, d'où elle est issue, les autochtones étaient très foncés. Et puis, au moment de la colonisation, les autochtones foncés ont été classés avec les personnes noires qui étaient esclaves. Donc, ça s'est beaucoup entremélangé. Okay. Alors, je dis afro parce que souvent, on me demande, oui, mais ton côté noir, il vient d'où? Puis, je suis comme tannée de devoir aussi expliquer ça. Mais c'est vraiment un tout, en fait. C'est noir amérindien.
Ouais. Cherokee, c'est aux États-Unis, donc c'est pas
particulièrement, ici. Mais ouais. Tu sais, il y en avait dans le sud de l'Ontario. Okay. Fut un temps, là, mais c'est surtout aux États-Unis.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Est-ce que tu veux nous en dire plus sur les perceptions extérieures? Parce que il y a beaucoup, beaucoup de backlash avec toutes les notions de diversité sexuelle et de genre. Ça peut virer vraiment comme... Moi, je lis beaucoup sur les réseaux sociaux, les commentaires, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Donc, je regarde des fois comment les gens réagissent à certaines publications. Et quand ces thèmes-là sont abordés, il y a énormément de propos violents, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup en parlent comme si c'était une pure invention. Est-ce que tu as été confrontée à des réactions hostiles, agressives par rapport à ces enjeux-là?
Dans ma vie personnelle ou dans mon travail?
Mais dans ta vie personnelle, on commencerait par ça.
Oui. Puis le travail après, les deux. Oui.
Toujours.
Ouais. J'imagine. Parce que quand même, t'es une femme métissée qui vient de la région, qui, tu sais, c'est ça.
Ben, c'est ça. Quand on parle d'intersectionnalité, facile, là, pardon. Tu sais, premièrement, les gens, ils me regardent, puis ils se demandent, elle vient d'où d'elle? Là, ils voient que je parle avec un accent québécois, là, ils disent, bon, elle a dû être adoptée. Là, quand ils entendent que je suis une tremblée, là, ils se mettent à rire parce que c'est inconcevable pour bien des gens qui ont pas côtoyé des personnes multiethniques comme moi, tu sais. Puis là, après ça, ajoute-le. Mm-hmm. Ben j'aime aussi les femmes ou les personnes identifiées en non binaire ou tu sais là ça devient compliqué là
ouais.
C'est ça, donc toujours
parce que les humains on aime beaucoup ça catégoriser puis mettre dans des cases. J'imagine que ça peut être très très étouffant que les gens essayent tout de suite de te cerner puis de deviner c'est quoi exactement ton background, t'es quoi exactement.
Mais quelque chose que j'ai compris très jeune, c'est que les gens ont peur de ce qu'ils comprennent pas. Simplement, puis dans tout, tu sais. Donc, on essaie de mettre les choses dans une catégorie parce qu'après ça, on a l'esprit tranquille, on se dit c'est rangé, on n'a plus besoin de se casser la tête. Mais si on ouvre toutes les portes puis toutes les catégories puis on se dit il y a un grand spectrum, mais là, ça rend les gens très inconfortables parce qu'ils peuvent pas mettre une coche pour se rassurer puis de savoir que t'étais absolument là. Puis ils doivent s'adapter tout d'un coup.
Mm-hmm. Dirais-tu que, justement, cette identité-là complexe a causé, dirais-tu que tu as subi des discriminations à cause de ça? Ou c'est juste plus comme, tu sais, c'est des discriminations ordinaires, de l'ordre de l'ordinaire, du racisme ordinaire, tu sais, de l'homophobie ordinaire, ou tu sais, whatever. Ou est-ce que tu sens que tu as eu des barrières, genre d'intégration?
Bon, je pense qu'il n'y a pas de racisme ordinaire ni d'homophobie ordinaire. Je pense qu'il y a l'homophobie, mais c'est important aussi de mentionner que l'homophobie, mais il y a la transphobie, il y a la biphobie, il y a la lesbophobie. Il y a énormément de personnes qui ont besoin qu'on se rappelle d'eux pour rendre toute la discussion plus inclusive. T'sais.
Ouais, merci de nous aider justement à avoir ces termes-là là, de façon.
Ben écoute, on est là pour partager, puis c'est ça qui est le fun. Là. J'en apprends beaucoup en vous écoutant, je trouve ça merveilleux. Mais je m'excuse, c'était quoi la question encore?
La question, mais je me demandais.
Ça avais été avec les nouveaux termes.
Oui, absolument. Ben si tu avais été victime de discrimination, si tu sentais que tu en avais subi dans ta vie là, dans à un point tel que c'était des obstacles à ton intégration, que ce soit pour avoir un emploi, que ce soit dans le milieu académique ou je sais pas, tu sais, est-ce que tu as senti ça?
Vous savez quoi, ayant grandi dans la situation que moi j'ai grandi, je crois que j'ai développé un mécanisme de survie qui a fait en sorte que j'étais à quelque part aveuglée par certaines discriminations. Dans le sens que c'est inconcevable pour moi que je sois discriminée à cause de ma couleur de peau, parce que moi je regardais les autres, puis c'est pas ce qui faisait en sorte que je les aimais ou je les aimais pas, c'était leur personne. Donc j'ai toujours pris pour acquis que les gens ils pensaient comme moi, mais de réaliser en grandissant que tout ce mécanisme-là a tellement mis justement d'oppression sous le tapis, ça l'ouvre beaucoup de frustration en moi. Donc oui, j'en ai vécu énormément. Puis au moment que je les ai vécus, j'ai réagi comme j'ai pu, je pense, en termes de survie. Puis en termes de « je laisserai pas ça m'arrêter ». Donc j'ai toujours refusé à quelque part de voir les choses comme elles étaient. Maintenant c'est différent, mais je parle de particulièrement quand j'étais plus jeune, puis j'ai grandi dans les Laurentides, tout ça. On dirait que je refusais d'admettre que c'était ça, parce qu'après ça, il y a une petite partie de moi qui perdait foi en l'humanité. Là.
Ouais.
Je pense que mon caractère, ma personne s'est renforcée, puis à un moment donné, est venue aussi la confiance de faire face à toutes ces douleurs-là. Puis quand je regarde derrière moi, ça me fait encore très mal de penser à tous les moments qu'on m'a discriminé pour ma diversité sexuelle et de genre et aussi ma...
Ben, c'est ça ma question, en fait. Ça serait celle que je me pose, puis je pense que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce qui est plus lourd à porter? Le racisme ou la biphobie, par exemple? Selon toi, laquelle de tes deux identités ou de tes identités multiples te fait la plus mal ou est la plus lourde à porter?
Ben encore, si on parle d'intersectionnalité, je pense que raciste, ça rentre dans une avenue, puis biphobie, ça rentre dans une autre. C'est deux chemins qui s'entrecroisent, mais qui sont pas comparables.
Ah, c'est ça. C'est vrai que c'est... des fois, on résiste à l'idée de reconnaître qu'on est en train de subir une oppression, parce qu'il y a quelque chose d'humiliant dans le fait de dire « Ah, shit, est-ce que là, ce que je viens de vivre, c'est du racisme ou c'est une discrimination? Est-ce qu'on vient de me refuser un emploi pour ça? » On dirait qu'on résiste comme mécanisme de défense. On veut pas croire qu'on est réellement dans cette situation-là. Fait que, des fois, on fait un peu de déni par rapport à ces difficultés, parce que ça fait très mal de constater qu'on rejette ce qu'on est.
Ouais.
Ben, je crois dans mon cas, maintenant, je vis dans un environnement super multiculturel, diversifié, magnifique, mais quand j'étais plus jeune, j'avais aucune référence. Donc, sans avoir de référence de d'autres personnes, de différentes cultures, du racisme même, j'étais vraiment la seule dans un melting pot de personnes blanches. Donc, je pouvais pas me comparer pour comprendre ce que je vivais. Puis, je crois que de là, beaucoup de mélancolie, tu sais.
Puis, dis-moi, tu sais, au sein de la communauté, puis là, je vais dire le sigle le plus complet que j'ai trouvé, LGBTQ2SIA+.
Ouais.
Il y a des tensions aussi. Yeah. D'abord sur l'acronyme qui est très long, mais aussi quand je regarde quelqu'un comme Jasmin Roy, par exemple, qui va dire qu'il y a une montée de l'intolérance dans les rangs des communautés LGBT+, et là, je le cite, là, c'est dans une entrevue, une lettre ouverte qu'il avait signée à la presse, dans la presse pendant l'été, qui dit que le droit à la libre expression, la liberté de parole sont de plus en plus difficiles. Il dit que si on partage pas l'opinion de certains groupes, on devient aussitôt des persona non grata, des traîtres, des racistes, des homophobes ou des transphobes. Donc, on la sent aussi, cette division-là, puis cette fermeture au sein de la communauté. Là. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Comment, tu sais, justement, est-ce que tu pensais, en rejoignant, tu sais, cette espèce de safe space de la communauté à Montréal, de voir que finalement, c'est peut-être pas si ouvert que ça?
Ben écoute, il y a toujours du travail à faire. On pense qu'on atteint un certain palier d'ouverture, puis on se rend compte qu'il y a encore du développement, tu sais. Moi, je suis totalement pour la liberté d'expression, mais je suis surtout pour l'évolution de la conscience. Puis à un moment donné, on peut pas parler de liberté d'expression en 2019 sans avoir parlé d'un certain palier. Je pense qu'on devrait tout être à quelque part dans l'ouverture d'esprit, puis dans l'acceptation des autres, dans le vivre et laisser vivre, je pense. Puis tant que t'as pas atteint ce point-là, si ta liberté d'expression, c'est négatif, puis c'est violent, puis c'est oppressif, ben je veux pas l'entendre, tu sais. Parce qu'est-ce que c'est vraiment de la liberté d'expression, ou c'est juste comme c'est de l'intimidation? Est-ce que c'est très complexe, tu sais.
La liberté d'expression a le dos large.
Ben c'est ça. Ouais. Fait que écoute, qu'est-ce que je peux dire de ça? C'est important de s'exprimer, c'est correct de pas être d'accord. Mais il y a des maudites limites à rabaisser les autres, puis à prôner des idées négatives puis oppressives.
Ça doit faire mal quand ça vient de ta propre communauté at large, évidemment. Là, tu tu pourrais t'attendre à ces comportements-là hostiles du grand public, tu sais, du public mainstream qui, comme, qui apprend justement à, qui s'habitue tranquillement à la diversité sexuelle et de genre. Mais quand ça vient de ta communauté, justement, où t'as des gens qui ont vécu l'oppression, puis qui la reproduisent sur d'autres groupes qui émergent, qui sont plus marginaux, c'est fucké pareil.
Intersectionnalité, intersectionnalité, intersectionnalité. Puis encore là, c'est comme, c'est quoi ma communauté, tu sais? Mm. Aujourd'hui, il y a un autre acronyme, on dit QT BIPOC, Queer, Trans, Indigenous, Black, People of Color. Donc ça, on englobe plus les personnes queer, trans, racisées, tout ça. Honnêtement, l'ironie, c'est que toute ma vie, j'étais préparée à faire face à l'oppression avec des personnes blanches, mais je l'étais pas de là à faire face à l'oppression avec des personnes racisées. Puis j'en ai vécu dans le sens, ben peut-être pas de l'oppression, mais je veux dire comme
du rejet,
oui.
Absolument.
Puis autant dans la communauté LGBTQIA+, mais encore là, c'est famille choisie. Tu comprends, c'est comme il y a des grandes communautés, il y a des sous-communautés, mais qu'est-ce que tu choisis de garder autour de toi? Mm-hmm. C'est sûr que c'est difficile, je trouve, de trouver son sens d'identité, son sens d'appartenance. Mais honnêtement, moi, je peux dire que je l'ai trouvé chez Fierté Montréal. Puis c'est ironique parce que je savais même pas que je m'embarquais là-dedans avec une équipe que j'allais plus tard appeler ma famille puis me sentir autant accueillie. Puis c'est ça qui arrive. On sait pas quand ça vient, mais...
Mais justement, parle-moi un peu de ton travail, mm-hmm. parce que, bon, on a parlé de ton histoire personnelle, mais maintenant que t'es directrice de la diversité, tu peux nous confirmer que la communauté LGBTQ2ISA+, est variée, pas mal plus que ce qu'on voit en général aussi dans le village. Est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre de personnes racisées et autochtones qui font partie de la communauté?
Il y a très, très peu de statistiques.
Ça veut dire qu'on les documente pas?
On les documente pas. Aussi, il y a une réticence des gens de ces communautés-là de sortir, puis de risquer encore de vivre de multiples micro-agressions. Puis, c'est ça. On n'en parle pas assez, on les voit pas assez non plus. Puis, la question, c'est pourquoi? T'sais, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes des communautés qui étaient BIPOC qui se sentent pas à l'aise de sortir dans le mainstream, ils sont pas représentés. Puis c'est un risque à chaque fois pour eux.
On sait que faire un coming out ou expliquer genre son identité de genre, c'est jamais facile. Peu importe d'où on vient, qui on est. Par contre, ce que vivaient les jeunes gays dans les années 80, 70, on entendait beaucoup là, les jeunes qui vivaient en région, qui faisaient leur coming out, puis qui allaient en ville s'échapper de leur famille qui les rejetait. On voit ça avec l'immigration, en fait, avec l'arrivée massive d'immigrants, des jeunes qui s'écartent, en fait, du chemin choisi par leur famille, des valeurs de la famille, tu sais, du modèle que la famille avait pour eux, se retrouvent très, très, très isolés parce que tu l'as dit, il y a un manque de représentation. Donc, par exemple, pour une jeune femme noire qui fait son coming out, qui se retrouve rejetée par sa famille, où est-ce qu'elle va trouver de l'aide, cette fille-là? Elle va au village, elle arrive là, puis je m'excuse, mais il y a juste des hommes blancs, puis c'est pas contre les hommes blancs, mais c'est juste factuel, tu sais. Il y a un manque de diversité, tu sais.
Écoute, c'est même pas juste un manque de représentation. Il y a des organismes communautaires qui font du travail exceptionnel. Ils ont un manque de financement. Mmh. Ils ont un manque d'expertise pour engager des personnes QT BIPOC.
Au-delà de ça, on parlait de la mission de Fierté Montréal. Tu sais, j'ai expliqué en bref, mais est-ce qu'il y a quelque chose aussi, tu sais, au niveau justement des comités de travail avec lesquels vous travaillez sur la communauté LGBTQ? Qu'est-ce que vous offrez comme espace pour inclure les personnes de la diversité? Ton travail, dans le fond, tu sais. Mmh. Qu'est-ce que tu fais au quotidien, Félicia?
Qu'est-ce que je fais au quotidien? Ben oui.
on veut un emploi du temps.
C'est ça, très précis.
Ben, vous voyez, mon poste a été créé tout récemment. Moi, je suis entrée en poste en février. Je suis la première personne racisée à occuper un poste de direction.
Wow.
Et puis ça c'est venu de beaucoup de travail des gens dans les comités à Fierté Montréal, tout ça. Beaucoup de travail personnel aussi sur les personnes blanches qui comprenaient peut-être pas les enjeux. Ce poste a été créé. Pourquoi? Pour être à l'écoute des différentes communautés puis des questions de besoin. Donc, moi, j'ai vraiment pour dire que je suis pas la porte-parole de personne. Je peux seulement parler pour moi-même. Ce que je fais, c'est que je vais rencontrer les organismes, les individus. Je m'assois avec eux puis je suis comme, bon, c'est quoi qui se passe par chez vous? Tu sais, c'est qui les membres de votre organisme, de votre communauté? C'est quoi vos besoins particuliers? Comment est-ce que je peux vous aider à vous sentir plus représenté? Qu'est-ce que vous aimeriez pour célébrer votre diversité à vous? Mmh. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Qu'est-ce qui a été fait dans le passé qui vous a nuit? Puis comment est-ce que moi, je peux régler ça? Mmh. Donc, ça en est une partie. Autre chose que je fais, c'est j'offre des formations. Par exemple, tous nos bénévoles, cette année, on a eu environ 500 bénévoles et on a reçu une formation anti-oppression. et antiracisme. Je coordonne aussi des formations de sensibilisation à l'interne pour le staff, pour qu'on reste toujours à l'affût. Puis je transmets ces informations-là des communautés pour qu'on puisse comprendre. Donc, suite à mon entrée en poste, c'est ça, j'ai développé plusieurs projets, mais toujours en connivence avec les différentes communautés que j'ai rencontrées. Il y a eu le Queer Pan-Asian Party.
Le pardon?
Queer Pan-Asian Party.
OK. Est-ce que tu peux nous expliquer en français?
Ben écoute, moi je sais pas. Hein? Ben j'ai rencontré plusieurs personnes de différentes communautés asiatiques et puis je leur ai demandé ben qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi vous venez pas, qu'est-ce qui serait bien pour vous. Puis on dit comme on aimerait ça juste pouvoir se faire du fun nous autres aussi, mais pas être fétichisé. C'est ça.
Ouais.
Puis tu sais pas ça, pas si là. Enfin en tout cas j'ai pris tout ça en compte. Ouais, j'ai dit ok, pan et jeune parce que une personne asiatique n'est pas seulement un chinois ou n'importe quoi, tu sais, de québécois stéréotypé qu'on peut dire là, c'est très vaste là,
oui.
Les communautés de l'Asie, donc c'était pour représenter ça. Puis
on en parlait d'ailleurs il y a quelques semaines avec Cathy Wong qui était venue parler justement de la minorité modèle. Elle avait parlé de la place de la communauté asiatique dans toute sa complexité dans l'espace public. Donc, on comprend ces enjeux-là. Vous irez écouter l'épisode si vous l'avez pas fait, mais maudit.
Ouais. mais vous voyez, dans ce projet-là, c'est pas juste genre m'asseoir faire « Ok, cool, on va faire un party », mais sinon, moi, je veux que les gens qui est là, qui ne sont pas de la communauté, ils soient respectueux puis qu'ils comprennent que c'est un party pour honorer les communautés et non pour arriver d'exemple manga ou n'importe quelle connerie de même qui m'aurait tellement insultée. Je veux que les gens dans les bars à qui je donne le mandat, je veux qu'ils engagent des personnes racisées pour servir ces gens-là. Je veux qu'ils soient conscients aussi c'est quoi la diversité sexuelle et de genre, puis qu'ils adressent pas les gens en disant monsieur, madame. Donc, ça l'englobe tout ça. Donc, ce party-là a été créé, puis l'endroit avec qui j'ai eu le partenariat a été magnifique. Ils ont engagé des personnes racistes. Je leur ai expliqué, moi, je fais pas affaire avec vous, c'est pas ça.
Oh,
parce que je regarde votre staff, puis honnêtement, nous, on veut de la diversité, puis il y en a des gens compétents qui ont besoin d'emploi. Fait que let's go. Je vais leur donner une formation à vos employés pour qu'ils comprennent aussi. Donc, aussi dans l'annonce du Queer Pan-Asian Party, veuillez noter que ceci n'est pas un bal costumé. Puis, tout manque de respect à la communauté peut se voir un refus à la porte. Puis ça, c'était très clair, puis c'était entendu. Aussi, j'avais des personnes sur place pour faire de l'intervention en devenant qu'il y avait quelque chose. Donc, c'est pas juste de dire, bon, c'est quoi tu veux, puis de lancer une pointe de pizza. Mais c'est vraiment de bâtir une relation fondée sur la confiance puis une relation durable.
Mais moi j'ai vu une initiative personnellement qui a été mise en place parce que moi j'ai beaucoup d'amis gays. et je participe régulièrement là aux festivités de Fierté Montréal à chaque année, entre autres la magnifique soirée des drag queens All Stars, et je suis allée sur le site, donc c'est dans un parc là à Montréal là, pour les gens qui sont en région qui nous écoutent, dans un parc à Montréal, je vous dirais c'est dans le village là, mais tu sais c'est décentré du village, c'est le village, c'est vraiment dans le centre-ville de Montréal, mais là on est un peu plus en retrait,
un petit peu à côté,
puis ça c'est le fun, c'est un peu plus dans le secteur résidentiel du village. Il y avait un tipi qui était désigné, qui avait été, on expliquait que c'était un espace de recueillement ou un espace, une espèce de safe space en fait, ouvert à tous. Donc pas juste aux personnes autochtones qui s'identifient comme étant bispirituelles, mais à tout le monde. Est-ce que c'est un peu de toi aussi, cette affaire-là de Tipeee?
Oui, c'est mon initiative.
C'est vraiment hot.
Merci.
C'est beau, là.
Merci.
C'est très impressionnant.
Merci beaucoup. Mais en fait, c'est ça, les espaces bienveillants existaient déjà.
OK.
Mais,
des espaces bienveillants, pas des safe spaces.
Ben, en français, nous, on a choisi de dire espace bienveillant.
D'accord.
En anglais, on dit safer spaces parce que it can never be safe enough, right?
True.
Fait qu'on essaie de dire ça le plus possible. Fait que les espaces bienveillants, en fait, c'est trois parties. T'as l'espace jeunesse, t'as l'espace cutie by POC, vraiment qu'on garde plus exclusivement pour les personnes des communautés racisées qui veulent se retrouver dans un lieu plus sécuritaire entre eux. Et puis, t'as l'espace bienveillant bispirituel que j'ai créé. Je cherchais une manière de peaufiner les espaces bienveillants pour que tout le monde s'y sente le bienvenu, pour que ça soit sécuritaire en même temps, ou plus sécuritaire pour tout le monde, puis pour ne pas désinformer aussi. Donc, l'idée du Tipeee m'est venue, c'est ça, au début de mon embauche, puis j'ai travaillé longtemps là-dessus parce que, premièrement, on le sait, on est sur des territoires non cédés, right? Les Mohawks n'utilisaient pas nécessairement les tipis. On associe un tipi à la communauté autochtone, mais ça n'a rien à voir. Il y a des tipis, des wigwams, des igloos, il y a toutes sortes de choses, puis on n'est pas au courant. Donc, mettre un tipi pour le fun, d'en mettre un là, parce que moi, je l'aurais décidé en tant qu'une personne autochtone, je pense pas que c'est correct. Donc, j'ai consulté vraiment plusieurs communautés, plusieurs organismes, plusieurs leaders dans les communautés autochtones, Premières Nations, à savoir comment est-ce que je peux créer un espace accueillant pour les personnes bispirituelles, puis en même temps ne pas désinformer les gens à l'autochtone qui vont venir. Puis dans tout ça, tu sais, comme il y a le fait qu'il y a beaucoup de personnes à l'autochtone.
Et là, je rappelle qu'à l'autochtone, c'est les personnes qui ne sont pas autochtones. Ouais, c'est le terme qu'on utilise. On l'a utilisé plusieurs fois dans notre échange jusqu'à présent, mais je l'avais pas spécifié.
C'est-tu à l'autochtone ou à l'autochtone?
Je pense que c'est autochtone. Il y a toujours trop d'autochtones. Mais c'est autochtone.
Les personnes non autochtones.
Voilà. Et c'est le terme que les autochtones utilisent pour parler de nous autres, pour parler de moi, pour parler de toi, pour parler des personnes blanches. Puis ça, c'est très drôle. On penserait pas qu'on a un terme générique pour nous mettre dans une gang. Mais oui,
c'est pas fair d'être juste qui se font nommer, là, on
c'est s'entend? Ça, exactement. Fait que c'est parfait. Moi, j'adore ça, allochtone. Yes. Okay.
Allochtone et non allochtone, tout le monde.
Je vais même le googler pendant que tu parles.
Non, c'est
allochtone. On va l'avoir.
Les personnes pas autochtones.
Non, c'est fait ça.
Que je savais d'avance qu'il y a beaucoup de personnes non autochtones qui allaient venir et voir poser beaucoup de questions. Mais l'espace, je le crée pour honorer les Premières Nations et peuples autochtones, pour reconnaître qu'on est sur le territoire, pas pour que des gens viennent et se servent continuellement, comme ils le font déjà, pour essayer d'accueillir de l'information gratuite et de brûler les gens qui allaient être là. Mmh. Je voulais que les personnes autochtones qui venaient puissent se relaxer, se sentir bien, se sentir en sécurité, mais en même temps, après avoir consulté les communautés, la plupart des gens m'ont dit, on veut que les personnes non autochtones puissent venir aussi, mais on veut qu'ils nous respectent. Puis souvent, ce qui revenait, c'est ben un endroit sans alcool, ça serait bien un endroit sub. J'ai dit, parfait, on va servir du thé, on va servir de l'eau, on va... Bon, fait que au final... Je sais pas si vous connaissez Michèle Audette.
Bien sûr, qui a été la présidente, en fait la commissaire en chef de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues.
Exactement.
Voilà.
Alors, une vraie journaliste.
Alors, je voulais aussi honorer l'ENFEDA, le MMIW. C'est ça, donc... Au final, Michèle Audette et son conjoint sont venus construire tous les espaces bienveillants avec moi. Et j'ai fait faire une affiche qui disait, il est beau le tipi, hein, mais c'est pas toutes les communautés qui utilisent le tipi. On l'a juste utilisé pour avoir votre attention, pour que vous sachiez puis que vous cherchiez à vous informer plus.
Qu'on est là, qu'on existe.
Oui, c'est ça. Sachez qu'on n'est pas ici pour répondre à vos questions, mais on a quelqu'un pour y répondre, mais seulement entre ces heures-là. Respectez-le, s'il vous plaît. Donc, on avait une porteuse de sagesse qui était là, entre 5 et 7, sur le site, et puis elle était payée, c'était un emploi, puis c'est une personne aussi reconnue de la communauté qui est en mesure de partager les connaissances. Elle reconnaissait que la personne aussi qui est là n'a aucune obligation de répondre à vos questions et peut vous dire non. Donc, sachez que vous êtes privilégié en venant ici, puis soyez respectueux. Fait que c'est important pour moi de trouver comment faire ça pour que ça se passe du mieux possible. Puis je crois que ça s'est quand même très bien passé.
Le feedback, les échos.
Oui, puis écoute, je m'attendais pas à ça, mais il y a eu énormément de familles aussi. J'ai pas pensé, mais vu que c'est un espace ça, ben oui, il y avait des familles, il y avait des enfants, tu sais. Puis j'avais mis plein de... des espèces de trucs gonflables, là. Tu sais, tu cours, puis tu gonfles ça dans l'air, puis ça devient une espèce de hamac, là. Mais tout le monde sautait là-dedans, puis ça jouait, puis écoute, à chaque fois que je regardais par là, je pleurais.
Oh, c'est vraiment cute. Ouais. C'est ça commence comme ça, tu sais, l'ouverture, puis on le voit justement que les plus jeunes générations sont déjà là-dedans. Mm-hmm. C'est ça qui est hot. C'est qu'eux, ils vont grandir, puis ça sera pas anormal pour eux, ça sera pas nouveau. Ça va juste être... Ça va faire partie de la norme. Ça, c'est très, très, très
j'aime
cool.
Le fait que d'une communauté à l'autre, il y a comme un respect des façons de faire des autres, qu'il n'y ait pas comme des façons d'être qui sont imposées. Parce que tu avais mentionné plutôt la question du coming out, puis ça m'a fait réfléchir à une discussion que j'ai eue récemment avec des amis, et où une amie faisait remarquer que il y avait quelque chose d'un peu occidental dans cette notion de coming out, parce que dans d'autres pays, il y en a qui ressentent pas le besoin de faire un coming out, qui vivent leur identité de manière épanouie, de manière fluide, sans vouloir en faire une déclaration officielle, publique. Mm-hmm. Et ça m'a fait réfléchir à quel point, comme, hey, c'est vrai, on appréhende les enjeux de diversité sexuelle et de genre beaucoup à travers un prisme occidentale, ouais.
Parce qu'on est ici aussi, fait qu'on est conditionné à penser comme ça, tu sais.
Des fois, je pense que c'est un peu contre-productif parce que.
Ben, c'est des différences culturelles, tu sais, c'est ça. Fait que ça, on prend pas ça en compte aussi souvent, effectivement, quand on parle, quand on a ces discussions-là.
Ben, je suis vraiment contente que tu nommes ça parce que justement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que question de coming out, puis tout ça, ça se passe très différemment là, selon les communautés. Puis ici, on considère que c'est comme c'est un must. Tu sais, t'es pas complet si tu fais pas de coming out, alors que c'est pas du tout le cas. Mm-hmm. Donc une chose que j'ai fait, j'étais tellement contente aussi. J'ai fait, mais c'est toujours en collaboration avec. Je prends pas le mérite de l'avoir fait seule. C'est un panel sur le coming out en tant que personne cutie by POC. Donc sur ce panel-là, on avait une femme trans d'origine latinx qui était aussi travailleuse du sexe auparavant. On avait vraiment plusieurs personnes et puis ça commençait quand on avait une discussion ouverte avec eux par rapport à comment eux ont vécu leur coming out. Mm-hmm. Je savais pas comment, si la salle allait se remplir ou quoi, j'appréhendais un peu, mais bien sûr on a ouvert la soirée en disant ben c'est un safer space puis on aimerait donner la priorité de parole aux personnes cutie by POC parce qu'ils l'ont pas. Donc respectez ça s'il vous plaît et puis tout le monde est bienvenu mais soyons les plus inclusifs possible. Puis à la fin de ça, il y avait un micro ouvert. Donc je savais pas à quoi m'attendre non plus. Puis c'était quand même une longue soirée là. Les panélistes se sont donnés puis moi j'avais pas tant mis un arrêt de temps, je voulais vraiment laisser le temps au partage. Il y a des gens qui sont venus parler puis c'était tellement touchant comme un monsieur. Une personne s'identifiant comme homme, donc je dis monsieur. Lui, il avait fait 4 heures de route pour venir à ce panel-là. Puis à la toute fin, c'est le dernier qui a parlé. Il s'est levé, il a dit, je veux juste vous remercier de faire ça parce que moi, ça m'a sauvé. Tu sais? Où il y avait un jeune qui était... qui parlait en langue des signes. Et puis, on avait des personnes pour traduire sur place. Donc, il a pu venir puis partager c'était quoi son expérience, lui, dans sa recherche, dans son coming out.
Ouais, parce que c'est aussi ça, la diversité, là.
C'est ça. Ouais. Puis, il y a comme eu une grosse vague d'émotions à la fin de ce panel-là, après que tout le monde ait fait ses partages, parce que il y avait plusieurs personnes racées dans la salle qui étaient comme, j'avais pas réalisé à quel point que j'étais pas seule. Je m'étais jamais arrêtée pour penser à ça parce que j'avais personne avec qui en parler, mais OK, c'est correct que moi, mon coming out, je le fais pas ou que je l'ai pas fait comme ça. Ouais. Fait que ça, c'est une autre chose.
Ouais. Hey, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis on pourrait tellement en parler des heures encore et encore. Mais dis-moi, donc pour suivre le travail que tu fais, c'est sur Fierté Montréal, on reste à l'affût des annonces de l'organisation. Donc justement, mettons des jeunes là, qui nous écoutent, qui eux-mêmes se posent des questions sur leur identité ou sur leur orientation sexuelle puis qui ont besoin de ressources, ils peuvent se tourner vers vous puis vous pouvez les mettre en lien avec d'autres organismes. Comment...
Mais c'est sûr qu'on a plusieurs ressources sur notre site déjà où les gens peuvent aller pour s'informer. Mais je disais, moi personnellement, si quelqu'un appelle puis a besoin d'aide, je suis toujours là pour guider les gens dans le mieux possible à trouver une place.
Ben c'est super. Puis merci de faire ce travail-là, Félicia Tremblay. Merci d'avoir été avec nous. Et ben en fait, avant de conclure, on va quand même vous parler de notre chouchou de la semaine. Le chouchou de la semaine.
Vanessa, quel est notre chouchou cette semaine?
Yalla! Comme dans Jeunesse arabe, yalla!
Je ne m'attendais pas à ça.
Je t'ai déstabilisée.
Vraiment? Hein? Genre... Es-tu en train de parler en arabe? Qu'est-ce qui se passe?
C'est ça. Donc, c'est une nouvelle émission qui est diffusée sur TV5. C'est animé par la chanteuse La Bronze, quelqu'un que j'adore. Vraiment, là, je suis complètement biaisée. Là.
Moi aussi, j'aime
beaucoup. Pas de trouver l'objectivité dans mon propos. J'adore cette fille. Elle me fait rire. Je la trouve fascinante. Je la trouve merveilleuse, intelligente, curieuse. Ses yeux pétillent quand elle donne la parole à ses invités. Donc, elle se déplace un peu partout. Là. Elle va à la rencontre de cette jeunesse, cette nouvelle génération de ressortissants de pays comme le Liban, en passant par la Palestine notamment. Donc, elle leur demande c'est quoi être arabe, c'est quoi être musulman aujourd'hui. Donc, elle leur donne la parole. Et ce qu'on voit, en fait, c'est un portrait tellement à des lieux, des stéréotypes qu'on voit dans les médias, là. Tu sais, tu te rends compte qu'il y a une génération qui est allumée, qui est féministe, qui est écologiste, qui veut renverser le capitalisme. Tous les idéaux auquel rêve la jeunesse occidentale, ben la jeunesse arabe, musulmane, y rêve aussi. Et je trouve ça tellement beau et tellement important. Et je pense qu'on le souligne pas assez à quel point on a tellement parlé de nos différences. Hey, je suis quétaine aujourd'hui, là, mais on a tellement parlé de différences qu'on a oublié de se concentrer sur ce qui nous rassemblait. Et on se rend compte que un peu partout sur la planète, ben les jeunes, ils rêvent aux mêmes choses, ouais, sont unis derrière les mêmes causes. Donc, allez jeter un coup d'œil. Premier épisode déjà en ligne sur la Palestine. Deuxième épisode, Émirats Arabes Unis. Donc, vraiment, la bronze qui fait un travail absolument formidable. Donc, à écouter sans faute, mes loulous, avec évidemment tous les autres épisodes de Pigment Fort. Donc, vous pouvez vous faire une espèce de soirée, là, jeunesse arabe, yala, Pigment Fort. Ça va être malade, là. Amener des amis. C'est cool. Parlez-en autour de vous.
Donc, moi, voilà, moi, je trouverais ça un peu intense quand même.
Non, pas moi, mais moi, je suis intense. je suis un peu intense.
Un peu. Un petit peu.
Le dernier épisode, c'était quelque chose. Je riais un peu trop.
On s'est amusé.
C'était genre des cris, c'était même pas un rire. C'est au-delà.
C'est du Vanessa.
C'est du Vanessa des cinéismes. Donc voilà, merci d'avoir été des nôtres cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pigment Fort. À la prochaine. Bye, Dalila.
Bye.
Ciao. Yalla. À la recherche et à l'animation, Dalila Awada et Vanessa Destiné. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Bastien Gagnon La France et Vanessa Destiné. Pigment Fort, c'est une idée originale de Vanessa Destiné et c'est une production Cube Radio.